pour ses grâces, ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ala in shakartum la azidannakum. Et si vous me remerciez, je vous en donnerai plus. Subhanallah. Donc, on ne doit pas être dans la catégorie citée par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, c'est-à-dire ceux qui sont ingrats. Les humains, en général, ont été qualifiés d'ingrats. Car ils ne reconnaissent pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart, on appelle ça, c'est une des catégories de mécréance qui s'appelle kufrun ni'ma. La mécréance dans les grâces d'Allah ta'ala. Donc ça peut être petite mécréance, ça peut être grande mécréance, hein, qui fait sortir de l'islam. Mais nous, on parle des humains en général. L'homme en général, comme cité dans le Coran, il est ingrat. Il ne reconnaît pas. Tu as tout ce qu'il faut, tu respires bien. Même si tu es malade, tu es dans une ni'ma. Et avec ça, on se plaint. Comme vous le savez, l'homme est ingrat. Naham. Alors, il y a énormément de preuves dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, il y a énormément de versets, du moins, il y a des versets, plusieurs versets, qui témoignent de l'ingratitude de l'homme. Quand on dit l'homme, vous le savez, en général, sauf preuve du contraire, on parle également de la femme. Parmi ces preuves, vous avez dans Sourate Al-Fajr, je ne sais pas si parmi vous les élèves connaissent la Sourate Al-Fajr, Wal-Fajr, Wal-Layl, Wal-Layalin Ashar, Wal-Shaf'i Wal-Watr, Wal-Layl Iza Yasr, jusqu'à la fin du verset. Et à un moment, il y a un verset qui dit, à peu près dans le sens, et lorsque l'homme, il est dans le khair, tout ça, tout va bien. Il est reconnaissant envers son Seigneur. Et lorsqu'il a des épreuves ou quoi, le sens du verset 1. Là, il est ingrat envers son Seigneur. Vous avez également les versets qui parlent de... Je crois que c'est dans Surat Luqman. Qui parle également de l'ingratitude lorsque les gens sont sur l'eau. Alors, ça aussi, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà pris le bateau, ils ont vécu des tempêtes. Moi, ça a été mon cas. Bon, par la grâce d'Allah, on n'a pas le mal de l'air. Nous, on a le mal de l'air, mais pas de mer. On n'a pas le mal de mer. Mais on peut dire quand même que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y avait des gens, ils étaient alors carrément allongés, ils ne bougeaient plus. Hein. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des versets qui disent quand vous êtes en mer et il y a la tempête, vous avez peur, vous remerciez Allah, vous invoquez Allah. Et dès qu'Allah il vous fait arriver sur la terre, hop, vous recommencez... votre ingratitude, entre parenthèses, le polythéisme. Naham. Donc ça, c'est Barakallahu fik, mashallah, cher Sadio. C'est exactement ça le verset. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا بَتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّهِ أَكْرَمًا. Hein? En français, Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit: Mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il éprouve en lui, restreignant sa subsistance, il dit: Mon Seigneur m'a avili. Lisez cette partie, lisez Sourate Al-Fajr, vous allez voir. Taïb. Donc tout ça pour dire, cette petite notion en début de cours, hein, c'est une faïda, hein, pour vous dire que, attention, l'ingratitude envers Allah, le fait de ne pas le remercier, c'est pas bon du tout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie du comportement, hein, ça fait partie des caractéristiques du musulman normalement. Du croyant, de celui qui est proche d'Allah, il est un serviteur remerciant. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens l'ont vu être un adorateur à ce point-là, ils lui ont dit, mais ya Rasulallah, ô messager d'Allah, toi tu es pardonné avant et après, comme si t'es pas obligé de faire tout ça. Il a répondu quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alam akun abdan shakura? Ne serais-je pas un adorateur, serviteur, remerciant? Mashallah, tamam, tamam, souvenez-vous de moi, donc je vous récompenserai. Remerciez-moi, ne soyez pas ingrat envers moi. Mashallah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Effectivement, exactement, ça fait partie des versets. Naham. Que si on aurait dû rajouter du contenu, eh ben, ça aurait été bien de rajouter ce verset. Mais comme on vous a dit, il y a des versets, il y a des hadiths. Donc, pour cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne de pouvoir étudier la science et bien d'autres bienfaits, car les bienfaits d'Allah, on ne peut les, comme Allah Ta'ala, la tursuha, vous ne pouvez les dénombrer, les bienfaits d'Allah. Vous ne pouvez les dénombrer. Mais déjà, pour ce qu'on a en apparence connaissance de bienfaits d'Allah, on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte. Peut-être. Regarde, je vous donne un exemple auquel on pense même pas. On n'y pense même pas. Et peut-être il y a des gens qui sont remerciants envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ils y pensent tous les jours quand ils se lèvent le matin. Quand tu te lèves le matin, sache que la nuit, ton âme, elle est montée. Allah, subhanahu wa ta'ala, il décide, est-ce que tu retournes dans la dunya ou est-ce que, ça y est, tu ne retournes pas. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien, et par une sagesse, il dit, je lui laisse encore, parce qu'après, il va se rattraper, il va faire taouba, il va se mettre dans la science, il va devenir quelqu'un de bien. Ça, c'est pas une grâce, ça, c'est pas une ni'ma. Plutôt qu'il te fait mourir maintenant, et là, peut-être, il y a le châtiment, tu vas être jugé comme une mauvaise âme, parce que vous connaissez le hadith, c'est un hadith qui est long, hein. Le processus des anges, quand tu meurs, ton âme, les anges y viennent. Alors ils vont ou avoir une apparence de rahma, de miséricorde, ou bien ils vont avoir une apparence de châtiment. En fonction de cela, ton âme, elle va monter vers Allah. Les gens vont dire que c'est qui est cette belle âme, cette pure âme, etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils vont appeler cette âme par les noms les plus bons, les plus beaux qu'il avait dans la dunya. Également, il va être agréé par Allah. Ensuite, il va retourner dans sa tombe et ça sera un jardin du paradis, sa tombe. Et le contraire pour celui dont l'âme est une mauvaise âme, qui n'a pas réussi. Il va monter, ils vont l'appeler par ses plus mauvais noms de la dunya, va être jugé comme une âme khabitha, mauvaise. Il va retourner en bas dans la tombe, ça va être le châtiment. C'est-à-dire que ça va être un des trous, des fossés de l'enfer, ça tombe. Donc faut penser à tout ça, faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas être ingrat. Pourquoi on étudie le tawhid? Pourquoi on étudie la croyance? C'est pour maîtriser ces choses-là, les pratiquer, avoir un cœur sain, pur, purifier ton âme, ton cœur, de façon à remercier Allah, de façon à ne pas avoir une croyance, moi, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi-même. Moi, tout ce que je fais, ce sont mes capacités. Moi, tout ce que j'ai, c'est moi la cause. Tu n'es rien sans Allah. Il faut bien se le dire, sans Allah, on n'est rien du tout. On n'entrera même pas au paradis par nos œuvres. Retenez bien ça. On n'entrera même pas au paradis par nos œuvres. On entre au paradis, si tu entres au paradis, ça sera par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas, moi j'ai fait ça, c'est moi qui vais au paradis. C'est par moi-même. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il n'accepte pas tes œuvres. Donc Allah nous préserve de tout ça, de tout mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens du tawhid, fasse de nous des gens qui iront au paradis, fasse de nous des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, des gens qui sont agréés. Qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. Qu'Allah nous préserve de son châtiment et de sa colère dans la dunya et dans l'akhirah. Amin. Taïb. Alors également, une autre faïda pour vous ce matin. Ça fait partie également de la croyance des gens de la sunna, c'est important. C'est lorsque tu fais toutes les causes pour acquérir quelque chose, pour atteindre une chose, tu fais toutes les causes. Cette chose, ça fait partie de l'acceptation du décret d'Allah, de la croyance, c'est important. Cette chose, si elle ne se produit pas, il faut toujours penser du bien d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans toute situation, il faut toujours penser du bien d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ne mourrez qu'en ayant une bonne pensée envers Allah. Attention. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et n'ayez, ne mourrez qu'en ayant une bonne pensée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il t'arrive, pense toujours du bien. Et ne pense pas du mal. Alors, pourquoi? Parce que barakallahu fikoum les frères pour les versets dans le groupe hein, parce que il y a énormément de gens quand il leur arrive une situation, ils se mettent en colère, ils sont mqallaq, c'est-à-dire ils sont inquiets, ils sont énervés, tout ça. Stressés, parce qu'ils veulent faire une chose, mais c'est pas écrit pour eux que cette chose elle va se concrétiser. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et vous pensez qu'une chose est un bien pour vous, mais en réalité c'est un mal pour vous. Et vous pensez qu'une chose est un mal pour vous, mais en réalité c'est un bien pour vous. Il y a quelques semaines, où on assistait au cours d'un docteur, c'est-à-dire c'est un enseignant, un docteur en tawhid, enseignant à l'université de Médine. Donc il enseigne le tawhid. Et dans son cours, il disait, justement en parlant du décret d'Allah, un jour, il y a une personne qui se présente à l'aéroport. Il devait prendre un avion. Apparemment, c'était un avion Il devait prendre un vol interne, ça veut dire dans le pays. Et donc il s'est enregistré, tout ça. Et à un moment, ou alors il ne s'est pas enregistré, Mohim, à un moment il a oublié, il a vu qu'il avait oublié, je ne sais pas si c'est son passeport, son billet, dans la voiture. Donc il est parti dans la voiture, ça a pris du temps. Quand il est arrivé, l'avion il était parti. Et ça, c'est le cheikh hein, qui raconte ça en Arabie. Ça s'est passé en Arabie. Il est arrivé en retard, tout ça et tout. Il s'est avéré que l'avion, il a fait demi-tour parce qu'il y avait un problème ou quoi. Il s'est écrasé, il a pris feu. Il y a à peu près 300 personnes qui sont mortes dans l'avion. Alors que lui, pendant qu'il arrivait en retard, il était mqallaq, il était énervé, il était inquiet, il était stressé. Vous voyez, quand on va louper un avion ou quoi, c'est le speed, c'est colère. Je crois qu'il a même crié sur des gens. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait voulu un bien. Naham. Donc ça, c'est juste pour vous dire, Naham. C'est un récit authentique puisque c'est un professeur à la Jamira qui nous a raconté ça, l'université de Médine. Ça s'est passé en Arabie. Donc voilà pour vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir une confiance entière en lui. Quand il t'arrive quelque chose, dis-toi, oh, si tu as fait toutes les causes, attention, hein, si tu n'as pas fait les causes, ça se peut que ce soit de ta faute. Mais si toi, tu as tout fait, t'as tout fait. Khlas. C'est terminé. Tu dis, moi, j'ai fait toutes les causes, c'est pas écrit pour moi, tant pis. Tant pis. Taïb. Donc, on va, Inch'Allah, au terrain, là, commencer notre cours. On va reprendre sur notre livre. Notre livre, le livre de la science, Kitab ul-Ilm, de Cheikh Al-Uthaymeen. Dans le livre en français, parce qu'il y a un livre en arabe et il y a un livre en français. Donc dans le livre en français, on est à la page 21. À la page, on s'est arrêté, il me semble. Hein. Attendez, je vais voir si c'est bien ça. Je dirais 22. Alors. Cheikh, c'est la 22. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, revenons à ce que nous avons dit au début à propos des mérites de la science. Par la science, l'homme adore son Seigneur dans la clairvoyance. Clairvoyance, ça veut dire avec une lumière. La science est une lumière. Ainsi, son cœur s'attache à l'adoration et s'illumine par elle. Ça, c'est fort, hein? Ainsi, son cœur s'attache à l'adoration et s'illumine par elle. C'est-à-dire que la science, elle va être une lumière dans ton cœur, et ton cœur, il va s'allumer, en gros. Il va prendre vie. Naam. Et ça, c'est une des meilleures choses. Si t'as le cœur trop malade, ou si t'as le cœur mort, t'es ce qu'on appelle dans la religion, t'es comme un mort-vivant. Il accomplira en tant qu'adoration et non en tant qu'habitude. S'il prie dans cet état d'esprit, la promesse suivante d'Allah lui est garantie. La prière préserve les turpitudes, des turpitudes et des actes blâmables. Parmi les mérites de la science, il y a ceci. La science est l'héritage des prophètes. Premièrement, les prophètes, paix, prière et paix d'Allah sur eux, n'ont légué ni dirham ni dinar, ça veut dire pas d'argent. Ils n'ont légué que la science. Celui qui s'abreuve de cette science s'empare d'une part considérable de l'héritage des prophètes. Ça, c'est un hadith. Hein. Tu es maintenant, cher lecteur, celui qui va lire ce livre, au 15e siècle de l'Égypte. Si tu fais partie des gens de science, Cela signifie que tu es un des héritiers de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une des plus éminentes faveurs. On va vous rajouter une faïda ici. Tandis que si tu es parmi ceux qui apprennent la religion d'Allah, alors tu es sur le chemin des prophètes. Celui qui apprend la religion d'Allah pour pouvoir ensuite la pratiquer et la transmettre, ils sont sur le chemin des prophètes. Taïb. La science, alors deuxième chose, parmi les bienfaits de la science demeure, elle perdure, hein, tandis que l'argent s'épuise. Prenons le cas d'Abu Hurairata radiallahu anhu. Il faisait partie des compagnons qui étaient pauvres. Il était tellement pauvre qu'il tombait évanoui à cause de la faim. Subhanallah. Subhanallah. Je vous adjure au nom d'Allah de me répondre. Abu Huraira radiallahu anhu. Ça, c'est Sheikh Al-Uthaymin qui nous dit, répondez-moi, par Allah, répondez-moi. Abu Huraira ne jouit-il pas d'une renommée auprès des gens? Que si les gens parlent beaucoup de lui, il aura la récompense de quiconque profite des hadiths qu'il a transmis. Alors là, les hassanettes, elles sont énormes. C'est-à-dire que la science demeure tandis que l'argent est voué à la disparition. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin nous donne l'exemple concret, comme quoi la science, elle reste même après la mort de la personne, tandis que après sa mort, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Même si tu avais des montagnes d'or à toi, elles sont, quand tu meurs, elles ne sont plus à toi, elles passent à tes héritiers. Taïb. Il t'incombe, ô toi, l'étudiant en quête de science, de t'attacher fermement à la science. Conseil, recommandation d'un grand savant parmi les plus grands de notre époque. Attention, il t'incombe, ô toi, l'étudiant en quête de science, de t'attacher fermement à la science. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors là c'est un hadith. Là c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'homme vient à mourir, ses œuvres cessent, à l'exclusion de trois d'entre elles. Une aumône dont le profit demeure, une science dont les fruits sont encore perceptibles, un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Troisièmement, celui qui détient la science ne se fatigue pas pour la regarder. Subhanallah. Une des grâces, un des bienfaits de la science, quand Allah t'accorde la science, de la science, sa place est dans ton cœur. La science, elle va s'ancrer dans ton cœur. Elle n'a pas besoin de coffre ou de clé ou d'autre chose. Elle est dans ton cœur et dans ton esprit. C'est elle qui te garde pendant ce temps-là. Elle te protège contre tout danger par la permission d'Allah. La science te garde tandis que c'est toi qui gardes l'argent. Tu le mets dans des coffres derrière des portes verrouillées et malgré cela, tu demeures inquiet, tu n'es jamais tranquille. Contrairement à la science. Subhanallah, ça c'est... Allahu Akbar. Quatrième bienfait par rapport à la science. Quatrième. Le quatrième, la science qualifie l'homme à être parmi les témoins de la vérité. Subhanallah. La preuve en est qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Allah, en toute équité, témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est lui. Et les anges et les hommes de science en témoignent également. Allah a dit, et les détenteurs d'argent, Allah a-t-il dit, question de Cheikh Al-Uthaymin, Et les détenteurs d'argent, non, pas du tout, mais il a plutôt dit, et les hommes de science. Il te suffit comme fierté à toi, l'étudiant en quête de science, d'être de ceux qui témoignent qu'il n'est de divinité si ce n'est Allah, avec les anges qui témoignent toujours de l'unicité divine. Donc pour vous simplifier cette parole ici, c'est que dans un verset, Allah Ta'ala, il a pris à témoin les anges ainsi que les gens de science pour indiquer sa divinité. Ça signifie que les gens de science, si Allah Ta'ala les prend à témoin, c'est qu'ils ont un rang très élevé. Mais dans ce verset, Allah Ta'ala n'a pas pris comme témoin les gens qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent. Même si c'est des billiards de milliards de tout ce que vous voulez, il les a pas pris à témoin. Ce qui signifie que la valeur sûre, c'est la science. La valeur sûre, c'est la science. Et toi, si tu veux atteindre ce degré du rang des gens de science, Naham, alors, ô toi l'étudiant en quête de science, il te suffit comme fierté, ô toi l'étudiant en quête de science, d'être de ceux qui témoignent qu'il n'est de divinité à part Allah en vérité, hein, à part Allah avec les anges qui témoignent toujours de l'unicité divine. Donc ça c'est Subhanallah, Ajib. Cinquième point, les gens de science sont l'une des deux catégories des détenteurs du commandement qu'Allah a ordonné d'obéir, à qui Allah a ordonné d'obéir dans le verset suivant. Alors, il faut savoir que les gouverneurs, ceux à qui on doit obéir, le président, tout ça, le gouverneur du pays, Allah Ta'ala nous a indiqué dans le Coran qu'il y avait deux catégories de gens à qui on doit obéir, qui sont considérés comme détenteurs du commandement, du pouvoir. Il y a le gouverneur et il y a les savants. Il y a les savants. Et ceci est indiqué dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez à l'envoyé et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Obéissez à Allah, obéissez à l'envoyé et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Les savants, ils ont dit dans ce verset, les savants sont compris également. Le terme détenteur du commandement s'applique ici à ceux qui détiennent le commandement parmi les commandeurs et les gouverneurs, et aussi parmi les savants et les étudiants en quête de savoir, et aussi les savants et les étudiants en quête de savoir. Donc, on a une faïda ici, parce que tout le monde est au courant, la plupart des gens de la Sunna, ils savent que pour les gouverneurs, ils savent. Pour les savants, ils savent. Mais la plupart ne savent pas pour les étudiants en sciences. Donc ici, on a la faïda, que les étudiants en quête de savoir, ils ont un rang. Attention, ils ont une place également. Ils ont une place élevée dans la religion également. Donc ici, on a encore une autre faïda sur laquelle on insiste. C'est que on prend conscience de l'importance des savants, le haut rang des savants et des étudiants également. À partir de cela, et on le verra dans les cours, hein, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ce sont des fondements, mais c'est bien d'en parler ici parce que c'est une faïda qu'on peut tirer ici de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. C'est que tous ceux qui critiqueront, qui dénigreront, qui mettront des bâtons dans les roues aux savants, aux étudiants, ils seront dans la déviance. Ce sera une déviance dans la religion en réalité. Ils peuvent prétendre tout ce qu'ils veulent, inventer des règles, etc. On appelle ça une déviance dans la religion. Ils seront déviants de la religion. Alors ça peut mener loin. Ça peut mener au péché. Wallahu a'lam, c'est le moins grave. Le moins grave, ça signifie pas que c'est pas grave. Hein. Attention, lorsqu'on dit moins grave, ça veut pas dire c'est pas grave. Ça veut dire c'est moins grave que de tomber chez les gens de l'innovation ou alors de tomber dans la mécréance. Taïb, parce que c'est ça qui peut arriver à force. Allah, il peut te punir si tu. Allah Ta'ala, attention, il le dit dans un. Il y a une parole d'Allah Ta'ala qui dit celui qui s'attaque à un de mes alliés. Alors, traduction du sens, hein, je ne fais pas du mot à mot. Hein. Dans le genre, celui qui s'attaque à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Vous ne croyez pas que les savants, ils sont les alliés d'Allah? C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui s'attaquent aux savants. Et les savants, ils répliquent pas, hein, ils laissent. Ils laissent parce qu'ils savent que Allah Ta'ala, également, il dit dans le Coran, Allah Ta'ala prend la défense de ceux qui ont cru. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah Ta'ala, il prend la défense de ceux qui ont cru. T'as pas besoin de te défendre ou de faire du cinéma. À chaque fois que quelqu'un t'attaque, tu es obligé de faire du cinéma. Il y a des étudiants, c'est normal. Quand ils font une réplique ou une mise en garde, c'est normal. C'est parce qu'ils y voient un intérêt. Ils y voient un intérêt. Mais sinon, comme le disent les savants, les salafs, le silence, c'est également une réplique. Alors souvent, les savants, ils voient un intérêt à se taire et à laisser. On a des savants jusqu'à aujourd'hui, on n'a entendu aucune réplique. Ils les ont traînés dans la boue, inventé des mensonges sur eux, etc. On ne les a pas entendus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Allah qui va s'occuper de. Les pauvres massakines qui s'attaquent aux ulama, aux étudiants, c'est Allah qui va s'occuper d'eux. On les retrouve quelques temps après. Astaghfirullah, hein, c'est pas péjoratif. Hein. Ils passent du prêche dans les réseaux sociaux à fumer de la drogue et insulter tout le monde, etc., etc. Voilà la punition. Quand tu t'attaques aux savants, tu t'attaques aux étudiants, tu t'attaques aux simples musulmans, tu t'attaques aux gens de bien, voilà comment tu finis. Tu finis comme un. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Taïb. Tu peux même finir, comme on vient de vous le dire, dans l'égarement. Dans l'égarement, tu n'arrives même plus. Alors à un moment, tu avais une certaine. Parce que tu critiquais pas les autres, tu étais à peu près. Mais au moment où tu t'es mis à t'attaquer aux autres, aux simples musulmans, aux étudiants, aux savants, à la voix des salafs, Allah Ta'ala, il t'a brouillé ta perception, si bien que même la voix des salafs, maintenant, t'en fais plus partie. T'en fais plus partie. Ce que tu prêches, c'est ton nefs, c'est toi-même. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, il a une parole qui dit, et. Wallahu a'lam, elle se trouve dans les trois fondements, dans les trois fondements qu'on étudiera après le livre qu'on est en train de faire, la Risala, Al-Wajibat Al-Mutahatimah dans le Tawhid, les trois fondements. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, le prêcheur est de deux catégories. Les prêcheurs sont de deux catégories. Celui qui appelle à la voix d'Allah et celui qui appelle à lui-même, à son nefs. Il n'appelle pas à la voix d'Allah, il n'appelle pas pour Allah. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit celui qui appelle, celui que quand on lui mentionne ses erreurs, on lui mentionne ses erreurs, ses déviances, etc., il s'énerve, il veut que qu'on n'écoute que ce que lui il dit, il s'énerve, il n'accepte pas. Cheikh Al-Uthaymeen dit celui-là, il appelle à lui-même, il appelle à son nifs. Naam. Contrairement à celui qui appelle à la voix d'Allah, il est doux. Il est compatissant, il est pardonneur, il n'est pas haineux, il accepte la vérité, il revient quand il fait des erreurs. Celui-là, il appelle à la voix d'Allah. Naham. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a énormément de gens, ils sont ignorants de la méthodologie des salafs de la voix d'Allah. Donc n'importe qui se présente, même si c'est un imposteur, ils vont tomber dans les mailles du filet. Ils vont tomber dans les mailles, dans les mailles, pardon, du filet. C'est pas grave, c'est pas grave. Demain, même s'il va tuer quelqu'un, il va tuer un musulman, ils vont dire, c'est pas grave, c'est pas du polythéisme, il reste un musulman, c'est pas grave. Wallah al-musta'an, juste une petite faïda pour vous qu'on a vu hier en détail avec les élèves de l'ancienne classe dans les trois fondements. On a fait un détail sur les conditions de la da'wa. La parure que doit avoir un prêcheur. On a parlé de ça pendant une heure. Et je vais juste nous donner une faïda par rapport à notre cours ici. C'est que si vous voyez quelqu'un qui fait de darwa, il ne pratique pas ce qu'il dit, dites-vous, c'est qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas apte, il n'est pas crédible. On doit le boycotter. Exemple, il va vous parler de douceur, de gentillesse, de tout ce que vous voulez, de bon comportement. Et lui-même, il ne pratique pas ça sur lui-même. La question a été posée à Sheikh Elfaouzen. On a un professeur de Coran. Voilà, Sheikh, on a un professeur de Coran. Il a un mauvais comportement. Est-ce qu'on doit continuer à étudier avec lui? Sheikh Elfaouzen a répondu. Les professeurs de Coran, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Lui, délaissez-le. Délaissez-le. Ah oui, tu dois être un exemple quand tu fais de darwa, quand tu enseignes. Tu dois être un exemple. Tu dois être un exemple. Et l'exemple, il compte beaucoup dans les avis de Sheikh Al-Fawzan, j'ai remarqué. Parce que, donc, sur cette question qu'on va vous transmettre, il y a une divergence. Et le plus connu, c'est que on peut prier derrière un innovateur. Mais Sheikh Al-Fawzan, il dit, l'imam, il doit être un exemple, donc on ne prie pas derrière l'innovateur. Pour vous dire que Sheikh Al-Uthaymeen attache une importance, une grande importance sur l'exemple. Tu es un exemple, tu es un imam, tu es un prêcheur, tu es un exemple. Alors, ou bien tu es un exemple et on prend de toi, ou bien tu n'es pas un exemple et t'es mis sur la touche. Vous comprenez? Donc ça, c'était une petite parenthèse. Cinquièmement, les gens de science sont l'une des deux catégories des détenteurs du commandement, on l'a dit. Sixièmement, les gens de science sont ceux qui sont fermes et droit dans leur mise en œuvre à l'ordre d'Allah, jusqu'à l'avènement de l'heure de la résurrection. On peut arguer en ce sens du hadith suivant que Muawiya rapporte de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension juste de la religion. Mon rôle se borne à partager et c'est Allah qui pourvoit. Cette communauté ne cessera d'être ferme et droite sur sa mise en évidence de l'ordre d'Allah, sans se soucier de ses opposants, écoutez bien, sans se soucier de ses opposants, jusqu'au jour de la décision d'Allah, jusqu'au jour où la décision d'Allah sera exécutée, c'est-à-dire le jour dernier, la résurrection. Taïb. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. L'imam Ahmed a dit à propos de cette fraction de la communauté, c'est-à-dire ce groupe qui ne cessera de rester ferme sur la vérité. L'imam Ahmed a dit à propos de ce groupe, si ce ne sont pas les gens qui détiennent la science du hadith, alors je ne sais pas qui sont-ils, en dehors d'eux, pourraient avoir ce mérite. Le qadi Iyad, un des grands savants parmi les gens de la sunna, a dit, Ahmed entend par là les gens de la sunna et ceux qui adoptent la voie des gens ayant la science du hadith. Naam. Septièmement, parmi les bienfaits de la science, l'envoyé d'Allah n'a pas incité quelqu'un à envier quelqu'un d'autre, une envie sans intention de nuire, attention. Ça, c'est ce qu'on appelle une jalousie, mais qui est louable, qui est permis dans l'islam. La jalousie, l'envie se divise en deux catégories, celle qui est louable et celle qui est blâmable. La jalousie qui est blâmable, c'est lorsque tu souhaites retirer ce bienfait, en fait, tu veux du mal. Tu veux pas que cette personne elle ait ce bienfait. Tu souhaiterais lui retirer. Donc là, tu remets en cause le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça rentre dans ton tawhid. Ça veut dire que tu as un manque de tawhid. Également, par contre, vous avez la deuxième catégorie qui est un genre d'envie, de jalousie qui est louable. Ici, on nous dit, Ahmed entend par là les gens de la Sunna, ceux qui adoptent plutôt septièmement, l'envoyé d'Allah n'a pas incité quelqu'un à envier quelqu'un d'autre, une envie sans intention de nuire, pour un bienfait dont celui-ci jouit, sauf pour les deux bienfaits suivants. Ça veut dire que il y a des cas où le fait de jalouser, mais pas jalouser dans le sens péjoratif, Et dans le sens méchant, blâmable du terme. La quête de la science et sa mise en pratique. Tu peux envier quelqu'un qui est étudiant et qui met en pratique. Ça veut dire que toi, t'aimerais bien devenir comme ça. Taïb. Et deuxièmement, le commerçant qui a mis ses biens au service de l'islam. Un commerçant qui a mis ses biens au service de l'islam. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en effet, l'envie sans intention de nuire n'est louable que dans deux cas. Un homme auquel Allah a accordé des biens et lui a aspiré de les dépenser dans les bonnes causes, et un homme auquel Allah a accordé la sagesse, le savoir religieux, et il met en pratique cette sagesse, juste juge en fonction d'elle et l'enseigne. Il me semble qu'il y a un autre hadith aussi qui parle de celui qui a le Coran, celui qui mémorise et pratique le Coran. Huitièmement, parmi les mérites de la science, il y a ce qui est mentionné dans le hadith suivant. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, d'après un hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme guidance et science est celle d'une pluie abondante tombée sur une terre. Écoutez bien, c'est une parabole ici, hein. C'est une parabole par rapport à la science. Essayez de bien méditer pour comprendre ce hadith. L'image de ce qu'Allah a envoyé avec moi comme guidance et science, c'est à l'image d'une pluie abondante tombée sur une terre. Une partie de cette terre était féconde. Alors il y a l'eau de la pluie qui tombe et ça va être utile à cette terre, c'est-à-dire elle a absorbé l'eau et donné un fourrage vert et fourrage sec à profusion. C'est-à-dire que cette terre, elle a absorbé l'eau et elle en a profité à 100%. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui prend la science et cette science, elle rentre dans son cœur, il en profite à 100%, il en fait profiter les autres. Deuxième parabole dans le hadith, une partie était imperméable et improductrice, elle a retenu cependant l'eau et les gens ont profité pour boire, abreuver les bêtes, irriguer leur terre et semer. Donc là, on a le deuxième exemple, c'est quelqu'un qui va retenir l'eau et les gens, ils vont en profiter. Même si c'est une terre, elle est aride, etc. Là, on a l'exemple d'une personne qui retient la science et qui en fait profiter les autres. Enfin, la troisième partie est une partie qui est plate. Elle n'a retenu ni eau, ni fait pousser de l'herbe. Rien. La science, walou. La science, ça lui fait rien. Elle ne pénètre pas la terre, donc elle ne pénètre pas son cœur. Donc, elle n'est non seulement inutile pour lui, mais en plus pour les autres. Donc moi, je vous ai fait le rapprochement, la relation entre chaque parole au fur et à mesure du hadith avec la science, mais dans le hadith, le rapport, il est mentionné à la fin. Tel est l'exemple de celui qui a bien compris la religion et a tiré profit de ce qu'Allah m'a chargé d'annoncer. Il a appris et a enseigné aux autres. Premier exemple, hein, celui qui a bien absorbé l'eau, la science. L'autre exemple est comme celui qui s'est détourné de la science et a refusé la guidance qu'Allah m'a chargé de communiquer aux hommes. La terre qui... l'eau, elle fait rien. Elle pénètre même pas à l'intérieur. Ça va pas dans son cœur. Voilà, l'eau, elle lui sert à rien. La science, elle lui sert à rien. Naham. La science trace... Alors, neuvièmement... Neuvièmement... La science trace le chemin d'accès au paradis. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. La science trace le chemin d'accès au paradis, comme le prouve le hadith que tient Abu Hurairah radiallahu anhu. Vous voyez, au début, on a parlé d'Abu Hurairah. Tous les hadiths, combien de hadiths ça vient de lui? N'y a personne comme musulman, très rare, qui ne connaisse pas Abu Hurairah. Pourtant, il n'a rien légué comme argent, comme bien. Il a légué la science. Il était pauvre. Au point où il avait des évanouissements, tellement il avait pas de quoi manger. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Subhanallah. Mais quel exemple on a là? Quel exemple? C'est ça nos exemples, normalement. C'est ça les exemples. Aujourd'hui, les gens, ils prennent exemple sur des chanteurs, des chanteuses, des blogueurs, des influenceurs, des influenceuses, tout ce que vous voulez. Même des prêcheurs, prêcheuses égarés. Égarés ou bien ils sont une sorte d'imposture parce qu'ils se sont lancés, ils n'ont pas le bagage. Wallahul musta'an. Alors que normalement, on a les meilleurs des exemples. Les gens, ils vont chercher un tel, un tel, un tel comme exemple, alors qu'ils ont le prophète, les compagnons. Là, d'une certaine manière, c'est se détourner de la religion. Hein. On t'a donné la référence. On t'a dit quelle était la référence. C'est pas des gens d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, c'est une grosse faïda. Ce ne sont pas des gens d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu à l'époque de la révélation du Coran qu'on va écouter, qui nous explique le Coran. On va écouter qui pour le Coran? On va écouter les compagnons qui ont vécu à l'époque de la révélation. Lorsque le Coran y descendait, ils étaient à côté du prophète. Alayhi salat wa salam. Et nous, on va écouter des innovateurs comme par exemple Ismaïl Mounir. Il a fait son propre tafsir du Coran. Wallahul musta'an. Explication de Juz'amma, explication de. Mais toi, tu prends où ta science? T'as étudié où? Avec qui? Wallahul musta'an. Et les gens, ils sont là, cheikh, cheikh, cheikh. Après, on ne s'étonne pas. L'intérêt, l'usure, c'est halal. La mixité, c'est halal. Tout est halal. Voilà. Ils ont changé la religion d'Allah. Ils changent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Neuvièmement. Alors. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykoum. Juste pour revenir sur la parenthèse de ceux qui font darwa sans l'appliquer, on l'avait vu dans le cours de Tawhid qu'aucune prétention n'est valide sans la pratique. On avait appuyé avec la sourate As-Saff, verset 2, vous qui y avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Masha'Allah, barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum. Très bon rappel. Assalamu alaikum, Oustad. Hier, vous avez fait le rappel sur l'importance de la science. Non, je ne l'ai pas fait en fait. Bientôt, bientôt, Inch'Allah. Non, je ne l'ai pas fait. Bientôt, Inch'Allah, Cheikhna, Cheikh Abou Youssouf, bientôt. Je vous tiendrai au courant, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alors, le neuvièmement, la science trace le chemin d'accès au paradis, comme le prouve le hadith suivant que tient Abu Hurayra radhiyallahu anhu. De l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ce hadith est rapporté par Muslim. Je vous rajoute une faïda. Il y a des savants comme Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. Il dit pour atteindre cette récompense du hadith ici, t'es pas obligé de voyager. Il dit, celui qui suit les cours des savants, celui qui étudie la religion, il est considéré comme sur le chemin du paradis, inshallah ta'ala. Parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr. Malgré ça, les gens, la science, elle vient frapper à leur porte et vous constaterez que malgré ça, il n'y a pas foule. Les gens ne savent pas en réalité ce qu'il y a de meilleur pour eux. Wallahul musta'an. On pense que ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce sont les belles montures, les grandes montures, les grandes. Toutes les parures de la vie d'ici-bas, l'argent, etc. Ce que vous savez. Parmi les mérites, dixièmement. Parmi les mérites de la science, il y a ce qui est mentionné dans ce hadith de Muawiya, selon lequel Allah, l'envoyé d'Allah, a dit, celui à qui Allah ou Ta'ala veut du bien, il lui accorde la compréhension juste de la religion. C'est-à-dire qu'il fait de lui un juriste, un connaisseur de la religion, dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fiqh en matière de religion ne signifie pas seulement la connaissance des dispositions, règles légales, les jugements. C'est-à-dire le fiqh qu'on étudie, nous, le petit fiqh. Ça ne veut pas dire que ça, le petit fiqh. Ça, vous le savez, on vous l'a transmis. Hein. Qui concerne particulièrement les questions pratiques, comme cela est défini selon la terminologie des savants spécialistes du fiqh. Son sens va au-delà de cette définition. Donc le fiqh ne s'arrête pas juste au petit fiqh. Hein. Il désigne la science au sujet de l'unicité. Le fiqh, ça veut dire aussi le tawhid, des principes fondamentaux de la religion. Et de tout ce qui concerne la charia d'Allah, la législation d'Allah. S'il n'y avait parmi les textes du Coran et de la Sunna que ce hadith à propos du mérite de la science, il aurait suffi pour inciter la quête de la science et la charia et sa compréhension. Ça, c'est tellement beau que on va retenir ça et on va le partager. Si il n'y avait parmi les textes du Coran et de la Sunna que ce hadith, celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Ce hadith aurait suffi pour inciter à la quête de la science, de la charia et sa compréhension profonde. Taïk. De rien, Cheikh Abou Youssouf, de rien. Hayek Allah. Donc, il faut vraiment prendre. On a pratiquement terminé, hein, il en reste deux ou trois. Il faut que vous preniez vraiment toutes ces choses-là en considération. C'est vraiment important pour vous, hein, de connaître. Vous êtes étudiant, vous pouvez même transmettre ça. Vous pouvez transmettre tout ça. En tant qu'étudiant, c'est très important de connaître ces choses-là parce que ça va vous donner une certaine motivation quand tu sais tout ce que tu as gagné, le bien qui découle de l'étude de la science. À ce moment-là, tu vas être, ça va être une motivation, une sorte de motivation pour toi. Taïb, ça va être pour toi une sorte de motivation. Ça va te motiver à la science. Ça va la faire rentrer. Tu vas ouvrir ton cœur. C'est que du khair. Onzièmement, la science est une lumière qui éclaire les serviteurs. Ainsi, il saura comment adorer son Seigneur, comment se comporter à l'égard de ses serviteurs, et suivra alors une voie qui se fonde sur la science et la clairvoyance. Même ça, c'est fort, hein. Même ça, hein, c'est. Douzièmement, le savant est une lumière qui guide les gens de leurs affaires, dans leurs affaires religieuses et leurs affaires mondaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé précédemment, dans des cours précédents, on a parlé de. Comme quoi, la plupart, il y a énormément de gens qui ne reviennent pas aux gens de science, qui ne posent pas les questions, qui se font des fatwas tout seuls, qui gèrent leur islam comme ils l'entendent, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Et c'est un égarement. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de l'homme de la communauté des fils d'Israël qui a tué 99 personnes. Il s'enquit de l'homme le plus savant de la terre. On lui désigna un dévot, il demanda à celui-ci s'il lui reste quelque possibilité de se repentir. Choqué par la monstruosité de ce qu'il avait commis, cet homme, le dévot, lui répondit par la négative, c'est-à-dire non, tu ne seras pas pardonné. Il le tua, complétant ainsi la centaine de meurtres. Il alla ensuite trouver un savant et lui demanda s'il lui reste quelque possibilité de se repentir. Le savant lui répondit par l'affirmative et que rien n'oserait s'interposer entre lui et le repentir. Puis il lui indiqua un pays dont les habitants sont des gens pieux et lui conseilla de s'y rendre. Il se mit en route et lorsqu'il fut à mi-chemin, la mort l'atteignit jusqu'à la fin de l'histoire qui est célèbre. Méditons la grande différence entre le savant et l'ignorant. Allahu Akbar. Il a rencontré un savant et en un instant, on ne sait pas combien de temps il est resté avec le savant, mais on sait que c'est un instant. En ayant rencontré un savant un instant, il a fini au paradis. Ça, c'est une des fois où il y a beaucoup de fawaïd dans ce hadith, et je vais vous en donner une autre. Retenez bien celle-ci aussi, hein. Vous constaterez que le savant lui dit, va dans un pays où les habitants sont des gens pieux. On a tendance à pas faire attention quand on fait la hijra. On va dans un autre pays, mais c'est autant la fitna que dans le pays mécréant. Les gens, ils sont pas pieux. Il y a des pots de vin partout. Ça vend de l'alcool. Il y a des péchés. Même si c'est un pays musulman, tu es parti dans une contrée où les gens, ils sont pas pieux. Donc faites attention à ça. Pour vraiment s'y retrouver, si tu pars, pars dans une contrée où les gens sont pieux. Ça fait toute la différence. Wallahu alam. Et ce hadith, il a beaucoup de profit. Taïb. 13e point. Allah élève les gens du savoir aussi bien de ce monde que dans ce monde que dans l'au-delà. Si tu veux être élevé dans ce monde et dans l'au-delà, ça passe par la science. Le jour dernier, Allah les élèvera de plusieurs degrés selon l'ampleur de leur prédication et leur mise en œuvre du savoir qu'ils ont acquis dans ce monde. Allah les élèvera au milieu de ses serviteurs selon les œuvres. Il a dit en effet, Allah élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont la foi et ceux qui ont reçu la science, le ilm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, on a terminé ce chapitre. Dans le prochain cours, Inch'Allah, de comportement, on entrera dans le troisième chapitre. On a terminé un chapitre des bienfaits. Alors attention, le chapitre des bienfaits ici, ça ne veut pas dire que les bienfaits, ça s'arrête à ce que nous a mentionné uniquement ici, Cheikh Al-Uthaymeen. Les bienfaits sont indénombrables. Il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. Mais ici, c'est à titre d'exemple. Sinon, il faut faire un livre. Sinon, dans ce cas, il faut faire un livre avec plusieurs tomes, hein, plusieurs volumes, en plusieurs volumes, en l'intitulant Les bienfaits des sciences religieuses, de l'étude de la science. Et là, tu peux te lâcher. Mais là, comme le sujet, c'est pas uniquement l'étude de la science et le comportement en général, et l'étude de la science en fait partie. Donc, voilà. Taïb. On va terminer juste avec la lecture des commentaires ici. La science de pluie est de deux catégories. Premièrement, la première personne, les gens profitent de la science. Deuxième, la personne se détourne de la science, donc personne n'a profité de sa science. Abdelmounaïm Boussena affirme que les convertis peuvent fêter Noël avec leur famille et que les musulmans peuvent souhaiter un bon Noël aux mécréants. Il se base pour cela sur la narration faible, plusieurs rapporteurs manquants dans la chaîne de transmission, prétendant que le prophète avait laissé la délégation des chrétiens à Najran prier dans sa mosquée lorsqu'il vint le voir. C'est une ambiguïté, hein. Écouter des innovateurs ou des gens qui ont des problèmes de manège qui impliquent qu'on s'écarte d'eux. Lorsque les savants mettent en garde contre le fait d'écouter n'importe qui, c'est pour ton propre bien. Ahiurti, il y a dans le fait d'écouter ces catégories de personnes des grands dangers pour ta religion. Barakallahu fik, Cheikh Sadio. Barakallahu fik. Cheikh Ibrahim, Qur'an, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur reniez-vous? Ou niez-vous, pardon. Dans toute situation, en bien, en mal, il faut être reconnaissant envers Allah, car ça fait partie des six piliers de la foi, Arsène. Subhanallah, nous dit Shir Bilal, l'envie et les jalousies de deux catégories. Premièrement, l'envie de nuire à la personne. Deuxièmement, l'envie d'être nécessaire dans le bien. Barakallahu fik, Shir, salam alaikum ustaz. Hier, vous avez dit oui, Inch'Allah, bientôt. Hier, on l'a pas fait. Voilà. Barakallahu fikum. Donc, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah ta'ala, nous allons vous donner rendez-vous à demain. Pour demain, Inch'Allah ta'ala, pour la suite des cours. Bismillah. En vous remerciant pour votre présence, votre participation, nous restons à votre disposition. Wayek, Sheikh Bilal, hein, Wayek, nous restons à votre disposition pour pour toute demande, question, renseignement ou demande d'aide également. Alors, il faut demander dans un premier temps l'aide à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il est permis de demander l'aide de ses frères, de ses sœurs, si on en a besoin. Barakallahu fikum. وسبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وإياك شيخ بلال وفيك بارك الله الشيخ ساديو حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته